Bienvenue à tous dans le mag de l'été.
Il m'est arrivé, en passant devant, de me retourner maintes et maintes fois pour les voir encore. Or, au fur et à mesure que la vision perpendiculaire fait place à la vision latérale, la surface du papier doré se met à émettre un rayonnement doux et mystérieux. Ce n'est pas un scintillement rapide, mais plutôt une lumière intermittente et franche, ainsi que d'un géant dont la face changerait de couleur. Parfois, le poudroiement d'or, qui jusque-là ne renvoyait qu'un reflet atténué, comme assoupi, à l'instant précis que l'on passe sur le côté, s'illumine d'un soudain flamboiement et l'on se demande, stupéfait, comment a pu se condenser une lumière si intense dans un lieu aussi sombre.
Bonsoir, Flora Moscovici.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous venez de nous lire ?
Éloge de l'ombre de Tanizaki.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Mag de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. Au programme de ce lundi, deux artistes, deux femmes peintres exposées aux extrémités de la France. Au sud, à Aix-en-Provence, une grande rétrospective est consacrée à Fabienne Verdier en trois lieux, au musée Granet, au pavillon de Vendôme et à la Cité du Livre, l'occasion de prendre la mesure de la richesse du travail de cette artiste depuis son séjour en Chine, dans la province du Sichuan, où elle se forma pendant près d'une décennie à la calligraphie, jusqu'à ses œuvres toutes récentes, créées avec son gigantesque pinceau, son atelier nomade, sur les terres de Cézanne, dans la montagne Sainte-Victoire. À l'ouest, au festival Le Voyage à Nantes, c'est l'œuvre d'une jeune artiste qu'on peut découvrir en ce moment. Vous venez de l'entendre, Flora Moscovici est avec nous en direct pour nous parler notamment de son installation sur le mur des Échevins, place du Bouffay à Nantes. Car les lieux sont essentiels dans le travail de Flora Moscovici. Ils sont sa source d'inspiration première. Des lieux qu'elle révèle, réinvente, dont elle modifie par sa palette chatoyante la perception. Les univers de Fabienne Verdier et de Flora Moscovici sont très différents, mais ils ont en commun l'amour de la couleur et une force vitale, une puissance qui secoue et réénergise le regardeur. Nous écouterons tout à l'heure Fabienne Verdier, que j'ai rencontrée au musée Granet d'Aix-en-Provence, mais pour l'heure, je suis ravie d'accueillir en plateau Flora Moscovici.
France Inter. Duh. Le mag de l'été. Anna Sigalevitch.
Flora Moscovici, pourquoi vous avez eu envie d'entrer dans l'émission avec ce texte ?
J'ai choisi ce texte parce qu'il parle d'espace, mais aussi de domesticité et de peinture. C'est un texte sur le Japon, en fait, et sur la différence entre les espaces domestiques au Japon et en Occident.
Alors on va écouter un grand classique pour ouvrir en musique cette nouvelle semaine du Mag de l'été avec Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain
the same. Just sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Otis Redding, cette atmosphère très particulière, hein, Flora Moscovici, une atmosphère aussi douce qu'entêtante, qui est propice à la rêverie, une ambiance au contour qui est aussi un peu floue, un peu pastel, qu'il y a dans certaines de vos œuvres, Flora Moscovici. Est-ce que vous travaillez en musique ou est-ce que vous travaillez en silence ?
Je travaille souvent en musique,
oui.
Pas à Nantes parce que je travaillais dans la rue, donc il y avait déjà beaucoup de bruit autour de moi. Mais quand je travaille en intérieur, je travaille avec de la musique et avec toutes sortes de musique d'ailleurs.
Vous écoutez la radio ?
Ça m'arrive,
oui.
Mais je préfère entendre de la musique que des voix parce que ça m'entraîne aussi dans mes gestes.
Vous êtes portée par l'élan de la musique, vous êtes sensible à...
Oui,
à
et en général, je peux écouter des rythmes très différents en fonction de ce que je suis en train de peindre et puis du moment aussi.
Alors Flora Moscovici, vous êtes une jeune artiste, trentenaire, formée à l'École Nationale Supérieure d'Art de Cergy. Vous exposez déjà beaucoup, hein, un peu partout en France et puis à l'étranger aussi, à Rotterdam, à Dublin, au Canada, à New York dans quelques semaines. Une des particularités de votre travail, c'est qu'il se fait majoritairement, tout de même, in situ, donc pas sur des toiles, mais directement sur les lieux de vos expositions. C'est à l'École de Cergy, en quatrième année, que vous avez commencé à éprouver ce désir de créer sur les murs. Comment c'est venu ?
En fait, un petit peu par paresse, c'est-à-dire que je détestais tendre des toiles sur châssis. Et donc, je me suis dit, tiens, si j'essayais de peindre sur le mur. Et j'ai pris énormément de plaisir. Donc, j'ai eu envie de continuer.
De plaisir, parce que est-ce qu'il y a quelque chose de transgressif un peu dans le fait de refuser en fait les contours d'une toile et de peindre où on veut ?
Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose d'assez primaire, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de peindre les murs plus pour aménager un endroit, en fait, et pour se l'approprier. Mais c'est toujours dans certaines règles. Donc, oui, il y a peut-être quelque chose
de même de primitif, hein, je dirais, dans le fait de s'attaquer directement à la pierre, à la matière brute.
Oui. Et d'ailleurs... La peinture, dans mon cas, c'est plus quelque chose qui me permet de retrouver parfois le support qui est parfois invisible lorsqu'il est blanc, que de le recouvrir.
Et vous dites aussi une chose que je trouve intéressante, c'est que vous ne hiérarchisez pas les différentes peintures. Pour vous, à partir du moment où il y a de la matière qui se pose quelque part, c'est de la peinture au sens large. Il n'y a pas la peinture artistique et l'autre peinture.
Tout à fait. Mmh. Ça m'intéresse énormément d'essayer de faire le lien entre des peintures qui sont des peintures en bâtiment et des peintures qui sont... de la peinture plutôt de tableaux, enfin, qu'on rangerait dans la catégorie des beaux-arts.
Des beaux-arts, ouais, ouais. Alors, les lieux sont essentiels, hein. Vous dites, je vous cite, « L'observation des espaces que je traverse et l'attention à certains détails qui me procurent des émotions ou stimulent mon imagination constituent les prémices de ma recherche artistique. » Là, je vous cite. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'un détail qui a déclenché le début d'un travail ?
En général, alors, dans un espace, c'est difficile à dire parce qu'il y a toujours un détail qui... Ça peut être la couleur qui vient en premier, parfois la forme. Par exemple, à Nantes...
Oui, parlons de votre exposition,
À Nantes, il s'agit d'une cheminée gothique qui est en fait en façade.
Voilà, et alors il faut expliquer un petit peu que c'était en fait une bâtisse du 15e siècle, du Moyen-Âge, dans une rue à Nantes. Et en fait, cette bâtisse a été détruite au début du 20e siècle. Et il ne reste que cette espèce de grande cheminée sur un mur de pierre gris donc qui est là toute seule, et c'est sur ce vestige que vous avez eu envie de créer votre œuvre qui s'appelle Le Temps entre les pierres pour le parcours de d'art contemporain qui a lieu en ce moment à Nantes jusqu'au 1er septembre qui s'appelle Le Voyage à Nantes.
Oui, tout à fait. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment la forme des pierres, c'est-à-dire qu'il y a des pierres de différentes natures. Et les pierres elles-mêmes forment un dessin, si vous voulez, un contour. Et ce contour est devenu la forme de ma peinture.
Alors la question de la couleur aussi, elle est fondamentale hein, dans votre peinture. Il y a cette pierre grise, je décris un petit peu l'œuvre qui est autour. Et puis il y a ces couleurs extrêmement lumineuses dont vous remplissez la cheminée, des couleurs qui sont dans les jaunes, dans les orangés, dans les verts, des couleurs moi qui m'ont fait penser un petit peu, vous me dites hein, si je dis n'importe quoi, mais à Bonnard, le côté très coloré et très lumineux avec quelque chose de plus moderne, hein, de plus fluorescent, mais il y a cet esprit-là, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Non, c'est pas n'importe quoi, parce que il s'agit de lumière, et la peinture de Bonnard est très lumineuse, donc on pourrait faire référence à d'autres personnes, mais oui, entre autres. Et puis, il s'agit aussi d'énormément de nuances juxtaposées, en fait, d'énormément de touches de couleurs, puisque j'utilise beaucoup de pigments. Et je fais énormément de mélanges.
Alors, vous travaillez donc dans différents lieux. Vous avez travaillé aussi dans une chapelle. Je sais que les lieux sont très importants. La mémoire aussi, j'imagine que ça compte aussi pour vous, la mémoire des lieux.
Oui.
Oui. On va écouter quelqu'un qui a aussi travaillé dans une chapelle, qui a œuvré dans une chapelle. C'est Henri Matisse, en 1948, pardon, qui parle de son travail dans la chapelle de Vence.
Cette chapelle de Vence sera le résultat de plusieurs années de travail. Les côtés des murs de la chapelle qui donnent vers le vallon de Vence sera en vitraux qui partiront du sol jusqu'au plafond, ce qui est une nouveauté en somme dans la disposition du vitrail des églises. Le côté opposé sera en majeure partie décoré par des panneaux de céramique blanche avec des garnis de dessin noir. Ce qui ne sera pas céramique ou vitraux sera recouvert de chaux, d'où voisinage de matières différentes et si voisines pourtant par la couleur. Le noir des dessins formant leur lien d'harmonie. La chapelle n'aura d'autres sources de lumière que celle qui passera à travers les vitraux le jour, et pour le soir, un brasier ardent de lumière électrique rapprochée sera au-dessus de l'autel, près du plafond.
Flora Moscovici, vous connaissez cette chapelle, la chapelle de Vence, où Henri Matisse a œuvré. Oui, vous avez œuvré pas loin d'ailleurs récemment à la Villa Arson.
Oui, mais c'est un lieu que je connais depuis assez longtemps et qui a été bien sûr très important pour moi. D'ailleurs, j'avais envie d'y retourner, mais j'ai pas eu la possibilité quand j'étais à la Villa Arson. Mais paradoxalement, à la Villa Arson, je travaillais dans la galerie carrée, j'ai travaillé dans les caissons du plafond. Donc cette salle n'est absolument pas une chapelle, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là, parce que j'ai travaillé en hauteur, dans des caissons qui sont assez bruts en fait, avec le béton, mais qui se terminent en forme de diamant avec des vitres, et la lumière vient
et la lumière
de...
Voilà. Qui apparaît. Mais vous avez aussi œuvré dans une chapelle ?
Bien sûr.
Oui.
Oui.
Où là, c'est très beau aussi ce que vous avez fait. C'est très sombre en bas, dans les noirs, et petit à petit, quand on remonte, il y a aussi la lumière qui apparaît, même si c'est pas vraiment la lumière, mais enfin, il y a pas de vitraux, mais il y a quelque chose qui monte vers la lumière.
Oui, c'était une chapelle très sombre, et en fait, j'avais cette volonté qu'on entre et qu'on soit saisi par une couleur comme ça, enfin, une source de lumière qui jaillit presque des murs en fait eux-mêmes et du sol. D'ailleurs, ça s'appelait la lumière vient du sol.
Et vous réfléchissez, comme Henri Matisse, au fait que forcément, en fonction des différentes heures de la journée, la lumière est modifiée et modifie la perception de vos œuvres.
Oui, je réfléchis énormément à ça. Il y a plusieurs expositions dans lesquelles j'ai travaillé avec de la lumière naturelle ou en fait, en prenant en compte en tout cas la lumière plutôt qu'avoir une lumière standard de galerie ou de centre d'art. Et notamment dans cette exposition qui était une exposition en duo à la Villa Arson, nous avions décidé avec Linda Sanchez, l'autre artiste, de faire l'exposition uniquement à la lumière naturelle, ce qui voulait dire, et l'exposition se passait entre l'hiver et le printemps, donc de subir les aléas de la lumière, du soleil ou de la grisaille.
Ou de la grisaille. Flora Moscovici, nous avons pour habitude de brosser une sorte de petit portrait chinois de nos invités. Est-ce que vous êtes partante pour l'exercice ?
Bien sûr.
Flora Moscovici, si vous étiez un geste ?
Ouh. Pas facile. Un geste en mots, c'est compliqué, parce que je serais tentée de dire tchac.
Très bien. Si vous étiez un moment de la journée.
Le crépuscule.
Quel est l'artiste qui vous a le plus inspiré?
Ah, Jacques Demy.
Si vous étiez une couleur, Flora Moscovici.
Turquoise.
Qu'est-ce qui vous remplit d'espoir? Petit A, la nature. Petit B, l'art. Petit C, la science. Petit D, l'histoire de l'humanité.
L'art.
Flora Moscovici, de quoi êtes-vous reconnaissante?
De presque tout.
Que craignez-vous davantage? Le jugement d'un ami ou le jugement d'une galerie?
Plutôt le jugement d'un ami, mais le jugement en général, j'ai envie de dire.
Êtes-vous une amie pour vous-même, Flora Moscovici?
Ça dépend des jours.
Si vous étiez un tableau.
Quel tableau, je sais.
Oui, si vous étiez un tableau.
Ah, si j'étais un tableau.
Pas votre tableau préféré, hein, si vous étiez un tableau.
Oui, c'est différent, effet.
Aujourd'hui, à 18h28, sur France Inter, dans un studio noir et rouge.
L'idée qui me vient, je sais pas pourquoi, mais c'est un tableau très sombre. C'est un tableau de Francis Bacon des années 50 qui s'appelle Two Figures. Mais c'est un peu lugubre.
Pourquoi pas?
Anna Sigalevitch, le Mac de l'été sur France Inter.
On vous propose maintenant une escapade en pays aixois, Flora Moscovici, avec la peintre Fabienne Verdier qui m'a accueillie au musée Granet où lui est consacrée une splendide rétrospective. Bonjour Fabienne Verdier.
Bonjour.
Alors la ville d'Aix vous consacre une grande exposition en trois lieux, au musée Granet, au pavillon de Vendôme et aussi à la Cité du Livre. C'est une exposition qui va courir jusqu'au 13 octobre, donc on a le temps d'aller vous voir. Et c'est une exposition qui retrace un petit peu tout votre parcours depuis votre premier voyage en 1983 en Chine, dans la province du Sichuan, où vous êtes partie, vous aviez 21 ans, vous étiez élève aux Beaux-Arts de Toulouse, et puis vous avez décidé de partir. Vous êtes resté quand même 9 ans jusqu'en 1992. Qu'est-ce qui vous a amené en Chine?
Je voulais devenir peintre et je m'intéressais à cette fluidité du réel et à cette idée que les choses ne sont pas fixes et immobiles ou figées autour de nous, comme l'a souvent peint la tradition classique, que les choses pouvaient être représentées autrement que par la perspective et les lois de la théorie euclidienne, et qu'il y avait peut-être une autre manière de représenter la poésie du monde, de chanter la poésie du monde autour d'une expérience vibratoire. Et évidemment, on ne nous enseignait pas ça dans nos écoles d'art. Et j'ai commencé à lire des ouvrages sur la pensée esthétique, éthique, philosophie, des vieux lettrés chinois. Et j'ai vu que là-bas, tout là-bas, il y avait peut-être un lieu, une culture multimillénaire qui avait ce savoir d'une possible harmonie entre l'homme et la nature, une possible harmonie entre l'énergie humaine et une coïncidence possible avec l'énergie du monde.
Alors vous êtes allé à Chongqing. Dans les années 80, les étrangers n'étaient pas forcément très bien accueillis là-bas. Vous avez malgré tout réussi à trouver un maître. Comment ça s'est passé ?
Eh bien oui, c'était très très difficile parce qu'on était à peine 10 années après la révolution culturelle et j'étais la première étrangère à mettre le pied dans cette ville avec la population la plus élevée au monde. Donc c'était effectivement une sacrée aventure. Et puis j'avais cet idéal de vouloir apprendre la tradition picturale, mais j'avais pas percuté que j'étais dans une tragédie effroyable et dans un système totalitaire excessivement difficile. Donc j'ai raconté tout ça dans un livre qui s'appelle Passagère du silence, donc je ne vais pas re-raconter toutes ces histoires-là, mais ça a été très long, très dur, très une vie ascétique difficile pour une jeune fille, mais je dois reconnaître que ce vieux lettré qui s'appelle Huang Yuan m'a enseigné pendant presque 10 ans les fondements d'un art d'une richesse inouïe.
Là, vous dites que vous avez appris la liberté du pinceau.
Oui, effectivement, il m'a enseigné le fait qu'il fallait que j'oublie. J'étais venue pour essayer de penser autrement, donc il a fallu, et ça demande un effort mental très important, d'oublier les mécanismes de captation, de perception, oublier. Imaginez que vous êtes musicien et que vous avez appris Bach ou Mozart, et du jour au lendemain, il faut apprendre à penser, à jouer dans un tout autre langage, une toute autre pensée, une toute autre culture. Donc ça, c'est très très long de se nettoyer de ses habitudes et d'apprendre une toute autre approche des choses. Et effectivement, le vieux lettré me disait qu'il fallait que, au travers l'interprétation des idéogrammes et de ces cursives folles de l'art de la calligraphie et du pinceau chinois, j'ai travaillé cet exercice mental de comment, d'une forme complexe, cet idéogramme qui fait 12, 14 ou 24 bâtons, qui représente une pensée poétique ou philosophique, comment la jouer avec mon pinceau, qu'elle soit empreinte de cette expérience intérieure vécue de la pensée philosophique, mais qu'elle se lise dans une ligne fugitive, éphémère, minimale, essentielle, et que tous les gens qui la voient, qui l'écoutent presque, ressentent cette expérience intérieure. Et ça m'a pris presque 10 ans à pratiquer. Et ensuite, quand je suis rentrée, quelle ne fut pas ma surprise de voir que j'avais comme une maîtrise, une acuité. Et quand je voyais une forme complexe dans la nature, un rocher, un caillou, une montagne, une branche d'arbre, mon esprit tout de suite faisait ce travail. C'est devenu un jeu de l'esprit, d'épurer, de capter la complexité de la structure et d'en interpréter son essence.
Alors c'est à ce moment-là que vous avez commencé à travailler sur avec différents pinceaux, voilà. Des poils de loup, de renard, de rat, des plumes de faisan, etc. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchiez avec, parce que le pinceau est très 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 important, on en reparlera, mais ouais. Voilà, il y a une évolution du travail du pinceau avec ouais. Vous qui est très très importante. Ouais. Comment ça s'est passé avec ces différents matériaux ?
Ben, très vite, d'abord, je suis passée de la petite brosse occidentale où on va chercher la matière sur sa palette et on construit la forme par touche, à un axe de peindre à la verticale du pinceau, le pinceau chinois avec une réserve intérieure, et là on est dans une peinture de l'écoulement du monde, dans sa fluidité, dans son mouvement, dans son impermanence, dans, comme si ce qui s'écoulait du pinceau c'était ce méandre du grand fleuve du monde. Et j'ai trouvé tout de suite là une grande universalité, une manière de peindre le monde sensible par ces forces sous-jacentes, hein, et j'ai donné ma vie à ça. Et très vite, comme vous le dites, j'ai cherché différents poils. Le sanglier est très nerveux, est beaucoup plus nerveux que le poil de mouton ou que la queue de, le poil de la queue de rat, ou, et que chaque vigueur de trait m'ouvrait un monde différent de si je voulais peindre la minéralité des choses, si je voulais peindre une petite cascade de haute montagne, ou si je voulais peindre le silence de la neige. Voilà. Donc très vite, je me suis vraiment intéressée à l'outil, hein, qui à chaque fois me chantait, m'ouvrait les portes d'une matière différente. Hein.
Et c'est à ce moment-là, donc au début des années 2000, que vous avez pensé à un pinceau monumental, qui pèse des dizaines de kilos, 60 kilos je crois, ouais, fait avec 25 de chevaux, c'est,
voilà,
ça,
c'est ça. Et là, j'ai voulu agrandir ce pinceau, parce que je me suis rendu compte que le corps avait peut-être à nous enseigner bien des choses sur la mémoire du monde, que ce n'était plus la main droite qui peignait toute seule, mais que je voulais que le corps humain, le pinceau, le cerveau deviennent un corps pinceau finalement, et qui allait traverser les espace d'étoiles, et très vite les tableaux sont devenus des expériences vécues par la traversée du corps et l'esprit.
Parce que le mouvement, on le sent absolument dans tout votre parcours depuis donc les années, la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, il y a une force vitale qui est absolument extraordinaire dans ce qu'on ressent de cette exposition au musée Granet rétrospective qui part des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce mouvement, en effet, il est permanent.
Je suis très touchée quand vous en parlez, parce que je vois que je sentais que j'étais très proche des musiciens depuis toujours, et comme vous êtes passionnée de musique, on sent que vous l'entendez presque, hein, et ça, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir, parce que j'ai vraiment recherché ça, cette expression vitaliste, ce souffle qui fait être dans l'imaginaire de celui qui regarde, qui le rend plus vivant finalement. Le tableau n'existe que par celui qui se met devant, et c'est dans l'entre-deux qui se passent des choses. Moi, c'est le début du voyage, de prendre le public, et d'ailleurs ça traverse souvent l'étoile, vous savez, ça part de gauche, ça sort à droite, et l'énergie du tableau n'est que le début du voyage, et vous emmène à vous reconnecter à votre propre énergie, à l'énergie du monde, et il me semble que ça rend plus vivant ce moment-là.
Et ce qu'on sent aussi, je trouve, c'est que il y a ces fonds qui sont extrêmement travaillés avec des verts, avec des rouges, avec des marrons, avec des bleus nuits, avec des noirs. Donc on sent un travail à la fois de la matière, et on sent qu'il y a beaucoup de temps, ouais, qui est passé dans ce travail. Ouais. Et ce temps du fond est confronté à l'immédiateté du mouvement du pinceau. Voilà. Et c'est aussi la confrontation de ces deux énergies qu'on sent très fort dans votre travail, je trouve.
Ah, oui, c'est vrai. Je passe un temps infini à donner matière au vide. Pour moi, le vide n'est pas vide, mais plein de mille et une formes de microstructures jaillissantes, surgissantes, mourantes. Et j'ai besoin d'abord, c'est aussi un exercice presque spirituel, j'ai besoin d'oublier les affaires du monde, de rentrer en peinture, et de créer cette matrice, hein, d'où va surgir la dynamique d'une poésie jaillissante. Et tant que cette matrice ne vibre pas, n'est pas incarnée par une sorte de vibration des choses, je ne passe pas à ce trait. Et donc je passe des semaines avec la technique des glacis que j'ai mise au point comme les maîtres flamands, mais j'ai inventé une technique à l'eau avec des petits passages de glacis. Il y en a 10, 12, 15, je sais même, je ne les compte même plus, de petits pigments d'ocre, de bleuté, qui fait que quand la réfraction de lumière vient rentrer dans le tableau, à toute heure du jour, vous avez un renvoi de lumière et de couleur différent normalement. Et quand j'ai fini ce travail-là, je dresse mes toiles et je reste un long, long moment devant, ça peut être des jours et des semaines, et j'attends de voir jaillir, surgir la pensée dynamique qui va surgir. Et c'est à ce moment-là qu'il me semble que le corps est incarné de quelque chose de vivant, de cette matrice atmosphérique, hein, d'où surgit la poésie de l'instant.
Alors, il y a la confrontation, mais il y a le dialogue aussi beaucoup qui est au cœur de votre travail aussi depuis toujours, oui. Donc avec la culture extrême-orientale, avec la culture occidentale. Vous avez travaillé à votre retour sur les expressionnistes abstraits, et ensuite, vous avez commencé à travailler donc sur la musique. Oui. sur la musique, qu'on sent, il y a une musicalité très importante dans toute votre œuvre, mais vous l'avez de plus en plus développée, en vous interrogeant notamment sur le fait, est-ce que la musique et la peinture peuvent dialoguer au moment de la création? Et là, vous êtes allé à la Juilliard School assez récemment, en 2017, pour une résidence où vous avez vraiment mis votre corps en jeu pour ressentir les choses.
Oui, je me sentais un petit peu en désaccord par rapport à tout ce milieu de l'art contemporain, de cette marchandisation de l'art. J'avais l'intuition que nous sommes complètement à côté de la plaque et qu'on oublie l'essence même de ce que l'art doit apporter aux autres, c'est-à-dire un lien social, un échange à plus haut sens. Et j'ai eu envie de me rapprocher des musiciens, parce que je trouve que les musiciens sont des êtres avec une humilité absolument remarquable. Ils sont en dévotion totale dans le don qu'ils font du chant qui passe et qui ne reste pas. Et j'avais l'intuition que dans le travail inestimable qu'ils font de la gestuelle, de la captation, de ces structures abstraites qui jaillissent et qui évoquent dans l'esprit des êtres des chants poétiques extraordinaires, je travaillais de la même manière avec mon pinceau. Donc en 2014, où j'étais invitée à la Juilliard School de New York pour monter ce premier laboratoire, et non pas comme la tradition l'a voulu jusqu'ici, que le peintre illustre la musique ou que la musique illustre la peinture, comme on a eu de magnifiques exemples dans toute l'histoire, de Chagall, de Kandinsky et tous les grands maîtres, mais je voulais voir si au niveau du jeu et du jaillissement de cette pensée poétique, s'il y avait un échange possible d'âme humaine à âme humaine. Donc j'ai eu la chance de travailler avec William Christie, avec les plus grands jazzmen, Kenny Barron, et je me suis volontairement confrontée à des structures de musicales très très différentes pour justement explorer et voir si, comment je le ressentais de manière multisensorielle et comment ça allait jaillir avec le pinceau. Et voilà, donc ça fait des années que je me rapproche de plus en plus. Et puis ensuite, c'est Bernard Faucroll, qui était directeur du festival, qui un jour est venu à l'atelier. Il m'a dit, mais j'ai découvert votre travail à Juilliard School, il ne faut absolument pas abandonner ces recherches, il faut les continuer. On vous invite au festival d'art lyrique à Aix en 2017, et on vous laisse cette chapelle de la Visitation. Et donc j'ai travaillé là avec sur des pièces de Henri Dutilleux, Ainsi la nuit, qui a totalement bouleversé mon existence. Et cette approche des marches nocturnes et dans les structures d'Henri Dutilleux, c'est comme si, à force de les travailler, à force de les jouer, gestuelle après gestuelle, ces parenthèses, ces miroirs d'espace, cette structure même de ces variations nocturnes, a ouvert en moi des pans de mémoire, je ne sais pas d'où elles viennent, ancestrales, que je ne connaissais pas, que j'avais en moi. Et je suis rentrée dans une immense inspiration et j'ai commencé à peindre des nuits, des nocturnes et des variations nocturnes. Et c'est tout le travail que vous allez pouvoir voir à la Cité du Livre. Ouais.
Et là, donc, il faut parler aussi de la dernière période, oui. Où là, vous êtes très inspiré par le pays aixois,
oui.
Où là, donc, il y a cette montagne Sainte-Victoire, qui est une montagne immense, très imposante, très minérale, qui impressionne, qui fait peur, qui est avec un paysage splendide autour. Hein, donc, c'est sur les terres de Cézanne.
Voilà.
Et donc, là, vous vous confrontez directement aux éléments.
Oui, ça a été une bataille effroyable. Et j'ai décidé.
Vous êtes partie avec votre laboratoire.
Alors voilà, j'ai inventé une
structure métallique très minimale avec mon immense pinceau et on a essayé de le déplacer dans la montagne avec mon mari, mon fils, mes deux assistants. Nous étions sous une tempête des éléments, la pluie, la grêle, le froid, la gadoue. Je calais mon atelier entre les racines de pin. Enfin, c'était d'une violence inouïe. Parce que tout à coup, ce travail, ces habitudes de peinture que j'avais dans le huis clos de l'atelier, il est tellement perturbé par les myriades d'informations quand vous êtes en immersion dans la nature qui vous entoure et quand vous êtes un petit être sensible comme moi. Donc je pestais contre les éléments, j'étais épuisée. Et un jour, j'avais installé l'atelier nomade au bord du plateau de Bibémus. Il y avait un grand vide, on était face à la montagne. Et il y avait un vent ce jour-là de 86 km/h. Et mon mari était très inquiet que je m'envole avec mon pinceau, mon guidon de vélo, la petite structure, c'était très très dangereux. Et tout à coup, j'essayais de saisir les tectoniques, les telluriques, ces forces à l'œuvre qui ont fait être la genèse de cette montagne. Et je vois que le vent commence à, très très fort, commence à venir faire frissonner la matière dans l'écoulement de la matière fraîche. Et là, je comprends que je suis en prise avec des forces que je connaissais pas dans le huis clos de l'atelier, qui est l'érosion éolienne, la pluie, la grêle, et que tout à coup, plutôt que de pester contre ces éléments, il s'agissait d'être réceptive, d'être à l'écoute, de les accueillir et de commencer à jouer avec eux, comme j'avais joué avec l'énergie des musiciens. Et là, ça a été un choc d'éveil et de rencontre admirable avec cette tempête d'éléments. J'ai vu que cette érosion éolienne était en train de sculpter la matière et de créer des fractales et des grandes rivières et des sources vives dans le corps même de la matière de ma montagne. Et voilà, j'ai inauguré une exposition en haut de la montagne pour les fous de montagne et de spiritualité. On a aussi accroché une série de dessins que j'ai pu créer sur le chemin de Crète, en haut de la montagne Sainte-Victoire, au Prioré, qui est un lieu absolument mythique et sublime.
Merci beaucoup, Fabienne Verdier, d'avoir été avec nous sur France Inter. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie de vous être déplacée et d'avoir pris le temps de venir contempler un peu la peinture.
Le Mag de l'été sur France Inter.
Nous sommes en plateau, nous, avec Flora Moscovici. Flora Moscovici, vous avez en commun avec Fabienne Verdier le fait d'engager votre corps. Hein. C'est une peinture physique que vous faites aussi.
Oui, c'est vrai. Et il y a aussi un rapport à l'outil, en fait, d'ailleurs, dans la physicalité qui change.
Dans le choix de l'outil.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire un rapport au geste qui est différent selon les projets. Par exemple, pour le voyage à Nantes, j'ai travaillé sur une nacelle avec un pinceau. Mmh. Et là, je participe actuellement à une exposition à Marseille, à la Friche Belle de Mai, et pour laquelle j'ai peint avec un pistolet. Donc, enfin, on appelle ça même une station de peinture. C'est fait pour les gros chantiers. Donc, ça produit pas du tout le même type de geste. Et à Nantes, c'était vertical. À Marseille, c'est au sol, donc c'est horizontal. Et tout ça, oui, et j'aime le fait d'utiliser différentes façons de peindre.
Et
ça, c'est en fonction des lieux, en fonction des projets. J'utilise des outils différents et mon corps s'implique aussi de manière différente.
Flora Moscovici, c'est le moment de nous pencher sur l'actualité culturelle des jours à venir, des rendez-vous repérés par l'équipe du Mag de l'été. En 40 ans, le festival Jazz in Marciac est devenu incontournable. C'est l'un des plus grands festivals de jazz en France avec sa programmation à la fois pointue et réjouissante. Au total, 36 spectacles avec plus de 180 musiciens, 150 concerts ouverts à tous, place de l'Hôtel de Ville, et des masterclass de musique qui prolongent les festivités. Il y en a pour tous les goûts, de grands noms comme de nouveaux artistes. Un hommage sera rendu à Michel Petrucciani le 8 août et un autre le 11 août aux frères Jackson pour célébrer les 50 ans des Jackson 5 et le 10e anniversaire de la mort de Michael Jackson. Demain soir, à partir de 20h sur France Inter, Mélanie Bauer vous propose une soirée jazz en direction de Marciac avec la retransmission du concert de Gilberto Gil qui aura lieu ce soir à 23h dans le chapiteau et celui de Roberto Fonseca. Soyez à l'écoute. «
On prend la route de Saint-Tropez, direction le domaine du château de la Moutte, pour des nuits poétiques et musicales. Sous la direction générale et artistique du violoniste Jean-Philippe Odoli, le festival rassemble de grands artistes internationaux, notamment les pianistes Alexandre Tarot, Nelson Frère, ou encore les chanteuses Patricia Petitbon et Delphine Aidan. À l'intérieur de cette propriété au cœur d'une palmeraie centenaire se trouve une bibliothèque de plus de 4000 ouvrages transmises de génération en génération. Vous pourrez, en plus d'écouter de la musique, vous imprégner de ce lieu historique où sont passés Liszt et Wagner. Ce soir au programme, piano jazz à la plage des Canoubiers et ce mercredi 7 août à 21h, lecture musicale pour petits et grands avec Charles Berling dans la cour du château.
Маш.
Чем она вас так наградила?
Осколок.
А сын, вы откуда знаете?
Воевали вместе.
Ce mercredi sort en salle le deuxième long métrage du jeune cinéaste russe Kantemir Balagov, Une grande fille, un film magnifique récompensé du prix de la mise en scène au Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard. Alors l'intrigue se déroule en 1945 à Leningrad, alors que la Seconde Guerre mondiale a ravagé la ville et ses habitants. Deux jeunes femmes, Ilia et Masha, tentent de se reconstruire et de donner sens à leur vie. Nous avons rencontré Kantemir Balagov lors de son passage à Paris. Bonjour Kantemir Balagov. Alors c'est le livre « La guerre n'a pas un visage de femme » de Svetlana Alexeyevitch qui vous a inspiré, une grande fille. Qu'est-ce que la lecture de ce livre a provoqué en vous et pourquoi vous avez eu envie de porter une partie de ces récits, en tout cas l'ambiance de ces récits à l'écran?
D'abord, ce n'est pas une adaptation à l'écran, c'est vraiment une inspiration parce que on a été emprunté dans ce livre, effectivement, des caractères, des sentiments, des sensations, une ambiance, mais pas du tout une narration. Parce que, de toute façon, ce livre est composé uniquement d'entretiens qu'elle a menés. Ce que moi j'ai retiré de ce livre, le plus important pour moi, c'est qu'on m'a montré des destins de femmes après la guerre et qu'on m'a montré du doigt à quel point ma représentation de ces destins de femmes après la guerre était totalement superficielle.
Kantemir Balagov, dans votre premier film, Une vie à l'étroit, vous mettiez en scène une jeune femme qui se battait pour sa liberté. Là encore, il y a question de bataille, hein, celle de deux jeunes femmes qui tentent de survivre au profond traumatisme qu'elles ont subi pendant la guerre.
Effectivement, elles se battent. Je pense que de toute façon, même nous tous, dans une certaine mesure, on se bat. Je ne sais pas, pour moi, la lutte, la bataille, elle est liée à une sorte de dynamique pour aller de l'avant. Je pense que ça m'est intéressant, effectivement, d'analyser ça, d'étudier ça, cette dynamique-là. Si je choisis des femmes, c'est parce que j'étudie aussi mon côté féminin via les héroïnes que je choisis au cinéma et que je montre au cinéma. En marge du fait que moi je suis intéressé par le fait que les héros font quelque chose à l'écran, c'est bien évidemment la manière dont les femmes agissent qui m'intéresse. Et donc ce travail-là, c'est aussi un travail que je fais sur moi-même.
Le film se passe au sortir de la guerre, en 45, mais vous, vous filmez cette histoire avec votre regard, hein, celui d'un jeune homme d'aujourd'hui.
Et en marge du fait qu'on a essayé de reconstituer effectivement l'ambiance de l'époque, on a essayé aussi via l'espace, via la lumière, on a essayé de s'élever un peu au-dessus de la réalité de l'époque. Parce que de toute façon, la reconstitution 100%, on ne pouvait pas y arriver, quoi qu'il arrive. Et donc on a essayé de donner une intonation très particulière sur le regard de jeune personne sur cette histoire-là.
Kantemir Balagov, dans Une grande fille, la lumière est magnifique. C'est une lumière ambrée qui contraste avec la lumière blanche de Leningrad. Et puis les couleurs sont importantes aussi, hein. Le rouge et le vert des costumes, des couleurs qui sont très vives et qui contrastent avec le gris ambiant
Effectivement, via les couleurs, nous avons essayé de faire en sorte que nos héroïnes aient l'air mieux que ce qu'elles étaient véritablement à l'époque, qu'elles soient au-dessus de leur propre image. Parce que je savais quels actes, évidemment, allaient faire nos héros et tout ce que je... ne voulait pas, parce que ça ne m'intéressait pas, évidemment, de montrer des héros qui soient gris, grisâtres, malheureux. Je voulais montrer aux spectateurs que moi, je me nourrissais aussi de leurs tourments.
Vous êtes un jeune cinéaste russe. Est-ce que vous vous sentez libre dans la forme et dans le choix de vos sujets ?
Pour l'instant, effectivement, je me sens libre. J'ai tourné deux films. Pour l'instant, j'ai effectivement tourné les thèmes qui m'intéressaient et tels que je voulais les tourner.
Une dernière question, Kantemir Balagov. Quelles sont vos influences ?
J'ai beaucoup d'influences dans la littérature, le cinéma, la photo, la peinture. Il y a beaucoup de choses qui peuvent m'inspirer, y compris des vidéos que je vois sur YouTube. Il y en a vraiment beaucoup d'influences. L'important, c'est que je m'intéresse à des détails particuliers, des détails notamment que je n'ai jamais vus auparavant.
Merci beaucoup, Kantemir Balagov, et merci aussi à Joël Chaperon d'avoir assuré la traduction de cet entretien.
France Inter. Le Mac de l'été. Anna Sigalevitch.
Flora Moscovici, une dernière question. Est-ce que vous avez le souvenir de votre première grande émotion culturelle ?
Oui, je pense que ma première émotion culturelle liée à la peinture, il s'agit plus de cinéma, c'est Jacques Demy en fait, que j'ai beaucoup regardé les films de Jacques Demy quand j'étais enfant, et je pense que ça a énormément influencé mon rapport à la peinture, et ça m'a encore plus intéressé plus tard en fait de les revoir et
oui en comprenant le sous-texte qu'on comprend pas forcément enfant aussi
oui mais même en oui exactement mais aussi en voyant à quel point en fait le rapport à la couleur et à la peinture était pertinent pour moi
dans ces films à la lumière alors de la lumière il est question encore dans le Mac de l'été avec The National la chanson Light Years année lumière playlist de l'été sur France Inter.
You were waiting outside for me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows alone. You could have been right there next to me, and I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Light years away from you. Light years.
Flora Moscovici, d'avoir été en direct avec nous sur France Inter. Je rappelle que votre œuvre Le Temps entre les pierres est visible jusqu'au 1er septembre dans le parcours d'art contemporain Le Voyage à Nantes et que vous êtes également exposé à Marseille jusque fin septembre à la Friche Belle de Mai. Merci aussi à Fabienne Verdier pour l'entretien qu'elle nous a accordé. La grande exposition qui lui est consacrée courra jusqu'au 13 octobre à Aix-en-Provence et vous pourrez écouter Fabienne Verdier pendant toute une heure au micro de Laure Adler dans l'Heure Bleue le jeudi 29 août. Cette émission a été préparée par Élodie Royer et Marion Philippe avec l'aide de Maëlane Loaec. Elle a été réalisée par Clément Baudet à la réalisation, à la programmation musicale, pardon, Elsa Béranger et à la prise de son aujourd'hui, Paul Percheron. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Yves Decamp pour le téléphone sonne. Bonne soirée sur France Inter.